Il est l'heure du journal de la culture de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Julie.
Au menu de ce journal, un festival qui tire des ficelles, une série documentaire qui vulgarise l'art contemporain et les mutations du mécénat culturel en France.
Oui, hier, le ministère de la Culture fêtait les 15 ans de la loi du 1er août 2003, dite la loi Ayagon. Alors l'objectif de cette mesure, encourager le mécénat culturel par une exonération fiscale très attractive, avec réduction d'impôts de 66% à 90%. En 2003, en France, la culture du mécénat était quasi absente. La Fondation Cartier à Paris faisait figure d'exception. On écoute à ce propos le sculpteur César, en plein vernissage. Une archive INA tendait l'oreille.
Je suis pas très bavard, hein, sur le mécénat. Moi, je crois qu'il faut... Autrefois, c'était les papes, les princes, les rois. Mais aujourd'hui, les rois, c'est... C'est Coca-Cola, c'est Ford, c'est Cartier.
Aujourd'hui, les rois, c'est Ford, c'est Coca-Cola, c'est Cartier, nous dit César, et tant d'autres aujourd'hui. Et donc, la loi Ayagon, 15 ans plus tard?
15 ans plus tard, objectif réussi. Aujourd'hui, 14% des entreprises françaises sont mécènes, avec du mécénat sous toutes ses formes pour financer le spectacle vivant, le patrimoine, les nouvelles acquisitions des musées ou des restaurations. Le mécénat aura aussi bouleversé le paysage et la géographie des centres d'art en France.
Oui, c'est vrai qu'un peu partout, on a assisté à une éclosion assez spectaculaire, d'ailleurs, de nouveaux lieux, de nouvelles fondations.
En une année, par exemple, on a vu naître Lafayette Anticipation à Paris, la Fondation Carmignac à Porquerolles, Martel à Cognac et bientôt la Fondation Luma à Arles et pour l'île Seguin à Paris, celle du président d'Emerige, Laurent Dumas. La France est bel et bien le nouvel Eldorado des fondations. Alors pour les créateurs contemporains, ce sont des soutiens supplémentaires. Pour les entrepreneurs ou pour les banques, outre le fait de payer moins d'impôts, c'est aussi une façon de rendre leur argent philanthropique.
Oui, le mécénat participe à l'image de marque de l'entreprise.
Oui, un exemple récent, c'est pour l'arrivée des JO en 2024. Le Grand Palais s'apprête à être entièrement rénové. L'entrée principale du musée s'appellera l'entrée Gabriel Chanel. La marque a reversé 25 millions pour ce projet. Avec le recul des subventions de l'État, l'argent privé est de plus en plus présent dans les institutions publiques.
Et ça a créé beaucoup de débats d'ailleurs, cette histoire de Chanel. Le ministère de la Culture a pris position là-dessus?
Le mécénat est doublement encouragé par le ministère. Depuis 2017, il organise la remise d'un prix du mécénat culturel, un projet, un mécène. Et hier, il a annoncé la création d'ici la fin de l'année des rencontres du mécénat culturel afin de mieux se projeter dans les années à venir. Alors on ne peut pas faire la comparaison avec les États-Unis qui sont dans un système culturel qui ne repose que sur les initiatives privées. Néanmoins, le tout mécénat vers lequel la France semble s'orienter pose la question d'une privatisation progressive et intégrale du monde culturel.
Autre actualité culturelle dans votre journal, Natacha, qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Écoutez.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter.
L'art de la marionnette a heureusement bien changé. Hein. C'est ce que donne à voir à partir d'aujourd'hui le Festival International MIMA à Mirepoix en Ariège. C'est un des événements précurseurs dans le secteur, il fête ses 30 ans. Et en 30 ans, le théâtre de la marionnette n'est plus cantonné au jeune public. Il a été reconnu comme une forme artistique et il connaît un renouveau formel et esthétique. Cette année, une centaine de représentations sont prévues, avec le plus souvent des spectacles hybride et un fil rouge, le transhumanisme.
Rien moins que 25 compagnies de marionnettes sont attendues pour ce festival MIMA qui dure jusqu'à dimanche. Natacha Triou, vous vouliez nous parler d'une nouvelle série de documentaires diffusée à partir de ce dimanche sur Arte.
Je pense souvent au débat sur le prix exorbitant des œuvres d'art. Et je songeais à concevoir un projet qui ne finit pas en objet, mais qui devient une œuvre vivante. Ayant un créateur, mais ne pouvant devenir la propriété de personne.
Un extrait de l'excellente série documentaire Art Live, proposée par le Suisse Hans-Ulrich Obrist, l'un des plus brillants commissaires d'exposition de sa génération. 8 épisodes de 26 minutes donnent la parole aux grands artistes de notre époque. La série donne à comprendre les courants artistiques de ces dernières années et offre également des clés de lecture sur les nouveaux enjeux de l'art actuel.
Et donc, par exemple, en faire des œuvres vivantes, nous disait cet artiste.
Oui, il y a toute la question de l'éphémère qui est au cœur de cette série documentaire. Si les années 60 commencent à dématérialiser l'œuvre d'art avec l'arrivée de la performance ou de l'art conceptuel, les années 2000 amplifient cet élan. Les artistes travaillent avec le temps et sur la notion même du temps. Quelques mots du commissaire.
Ça nous paraissait urgent, en fait, oui, puisque il y a vraiment un manque par rapport à des films sur les expositions, puisque c'est à travers le XXe siècle, de plus en plus, l'exposition est vraiment devenue le médium central par rapport à l'art. C'est que les artistes pensent dans ce médium. Ils utilisent l'exposition souvent pour créer des œuvres. Et en même temps, oui, il existe des documentaires sur les artistes, il existe des documentaires monographiques sur les artistes, mais il existe très très peu de films sur les expositions. Avant tout, sur les expositions contemporaines. C'est important de documenter, de créer cette sorte de mémoire de l'exposition.
Voilà, Art Live, c'est à partir de dimanche sur Arte, et c'est aussi à retrouver sur le site internet d'Arte jusqu'en septembre. Natacha Triou, vous avez laissé hier à la grande table d'été le soin de parler de la sortie cinéma de la semaine. Et bien donc ce sera tout à l'heure à 12h45, Mission Impossible. Tom Cruise est-il un agent du système? C'est la question que Romain Debecq-Delièvre posera à ses deux invités. Louis Blanchot, critique de cinéma pour Chronique Arte et auteur de Les Vies de Tom Cruise, et puis la critique et réalisatrice Florence Colombani. Merci beaucoup.
Merci.
Natacha Triou, bonne journée.